comment?
Alors, j'avais téléphoné à l'officier de police en leur disant, écoutez, nous allons avoir quelques disputes avec les communistes. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de choses trop graves. Mais n'intervenez pas. Alors, personne n'avait bougé. Alors, les autres qui parlaient d'appeler la police, etc., inutile de solliciter dans une république où les citoyens ont leur mot à dire. Alors, et je dis, ben voilà. Alors, c'est très simple.
Oui, mais enfin, on voudrait voir.
C'est très simple. Il y a toutes les portes ouvertes pour le caissier central. Il peut faire toutes les vérifications, c'est tout. Personne. Puis ça y est. C'était toute une grosse histoire. J'étais mis au provisoire. On m'a pas osé me foutre dehors parce qu'on aurait voulu me foutre dehors. Alors c'est là où Jean Meury leur a dit, vous faites attention, parce que avec Genève, avec Tronchet, ça ne va pas tout seul. Vous le savez, et d'autre part, Genève n'a pas besoin de vous. C'est la plus forte section que nous ayons par là-bas. Elle n'a pas besoin de la centrale. Par conséquent, vous allez arriver à une situation épouvantable. Alors, ils ont moulé. Alors, voilà un peu de tout le climat qui se fait là-dedans. Alors, bon, tu peux arrêter. À la rue Necker, eux étaient à la rue du Temple. Par la suite, on a toléré de leur donner des locaux au boulevard d'en face. Mais avec les nouvelles structures, avec leurs nouveaux sigles et appellations, on parle de moins en moins de la FOBB, c'est-à-dire historiquement, la FOBB a disparu. Mais par contre, les syndicats des ouvriers du bâtiment, ça restera dans l'histoire. On ne parlera pas de la FOBB, mais on parlera des syndicats et des travailleurs du bâtiment. C'est pourquoi, déjà maintenant, je parle des syndicats du bâtiment. Voilà. Oui. Pour avoir de l'activité sociale, progressiste. Et puis lorsqu'il y a eu l'affirmation des idées, lorsque Karl Marx, au sein de l'Association internationale des travailleurs, a posé le problème de la prise du pouvoir, etc., il s'est constitué petit à petit l'idée d'une formation politique gouvernementale. Et ça a été la constitution du Parti Socialiste Allemand qui a donné le coup de grâce de la dissolution de l'Internationale qui s'est faite d'ailleurs de l'Association Internationale des Travailleurs qui s'est faite d'ailleurs après un déménagement de quelques années depuis 1872 après le congrès de la Haye un déménagement à Philadelphie je crois. C'est là-bas où ça a été liquidé. Mais j'ai vu ça en recherchant les origines, justement, du secrétariat ouvrier. Parce que ce fameux secrétariat ouvrier, c'était un truc assez ambivalent, même ambigu, et qui groupait, dans le fond, des intellectuels, des gens socialistes, partisans du syndicalisme, etc. Tu vois, et non, pendant longtemps, on a eu cette fusion des activités sociales qui n'avaient pas une distinction particulière syndicale. C'était un mouvement ouvrier. Mmh. Et puis alors, petit à petit, s'est affirmé il s'est créé ceux qui ont voulu avoir une activité politique, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir, ils étaient des insyndicats. Et alors, ils ont formé les partis ou les associations de tendance nettement politique, ils ont voulu leur indépendance par rapport à l'ensemble du mouvement ouvrier. Mais ensuite, il y a eu l'autre drame, ce sont les politiciens qui ont considéré que le mouvement ouvrier était mineur, qu'il pouvait être une bonne base d'appui, de conquête politique, et alors ils se sont mis à dominer, à noyauter et dominer les syndicats. Et il a fallu la reprise après 1918 pour réaffirmer l'indépendance des syndicats et des partis politiques, parce que les gens des syndicats accusaient les politiciens de les avoir menés dans cette grève générale, parce que les syndicalistes n'avaient, dans le fond, jamais accepté le mouvement de la grève générale, ils avaient été manœuvrés, quoi. Une relation imagée de cette manifestation. Et j'aurais bien voulu retrouver cette page. Elle doit être au...
C'est dans le peuple, ça?
Oui, oui, non.
C'est quelle date, ça?
Pacifiquement. J'ai une date de fin, j'en ai le fin.
Ah, c'est le 26 avril 46. Il y a des histoires de défenestration.
Oh oui, vous savez, c'est toute une histoire. On avait donc eu la grosse bagarre à propos des jours fériés, etc., qui est toute une histoire que je relate à peu près, etc. Et puis, ça donnait lieu à des manifestations, grèves, etc., du bâtiment, auxquelles se sont joints à ce moment-là les ouvriers, même de la métallurgie, et puis un peu dans la population. Alors on avait une réunion avec le Conseil d'État et les patrons. Et alors je parle sur la place qu'on avait, je fais un discours, etc. Puis je fous le camp à ma réunion à l'hôtel de ville, à la fin de l'après-midi. Et puis, je ne sais pas pourquoi le Conseil d'État avait d'ailleurs fixé ça à 5-6 heures du soir. D'ailleurs, c'était... Alors, puis mon frangin, puis les copains, disent à la foule, pour finir, ben allons prendre des nouvelles de la sœur du Conseil d'État. Alors, on est en discussion. Quand tout à coup la foule est venue, ça a été, ils ont bousculé les flics, etc., comme ils ont... Et alors c'était la prise d'assaut de l'hôtel de ville. Les gens sont montés dans les bureaux de l'hôtel de ville, ils ont foutu les trucs par les dossiers par la fenêtre, etc. C'est tout juste, ils n'ont pas foutu le feu. Je crois même que la voiture Rosset ou une voiture a même brûlé sur la plaine de la connerie. Et puis, alors, Rosley, évidemment, est sorti, on a arrêté la séance, les portes avaient été quelque peu bousculées. Et alors, c'est là où Rosley était monté sur la fenêtre du rez-de-chaussée pour dire au type, ça ne va pas, etc., et je ne céderai pas... à parler dans de telles conditions, etc., à la foule, tu vois. Puis nous, là, nous étions derrière la délégation. Nous étions derrière Rosley. Et alors, des cocos qui ont pris Rosley par les pieds. Et heureusement, c'est moi et mes copains qui ont réussi à retenir Rosley dans le deux. Alors c'est ça. Alors bref, les portes ont été fermées, les grandes portes du 14 de la rue de Covid, c'est les grandes portes de ça, mais il est resté une équipe avec mon frère et les militants qui sont restés quand même dans la cour. Et la réunion a repris, c'est un certain temps, puis la réunion a duré, etc. Et on discutait avec le Conseil d'État. Alors il y avait Picot, il y avait Casali, il y avait Rosset, il y avait qui encore. Puis il y avait Mussard qui était venu avec les manifestants, puisqu'il y avait le manifestant, alors il s'est entré là. Puis on discutait, etc. Puis, je sais pas, à un moment donné, Picot, quelque chose, etc. Ou peut-être même Rosset, alors moi, il paraît que j'ai foutu le coup de pain sur la table en disant « Si vous êtes encore là, c'est parce qu'on y est !» etc. Bref, c'est du tout une histoire. Ça a duré assez longtemps, jusqu'au moment où ça durait tellement longtemps que Kazaï est allé quérir un pique-nique dans les restaurants d'alentour. Il est revenu, je me souviens de faire. Alors il dit, regardez, hein, j'ai apporté une bonne bouteille. Ah ouais, c'est à la fin que ça. Alors je me souviens Rosset qui lui dit, ben, c'est après une bagarre pareille, on apprendra une bonne bouteille. Et alors, après des discussions, le père Picot dit, bon, il faut faire entrer ces messieurs. Alors sont entrés le président patronal de Halle et Renaud Barbe. Et l'un était caché dans une armoire, puis l'autre était caché dans les arbustes, dans le petit jardin, dans une discussion, etc. Alors Picot dit, bon, maintenant c'est assez, il faut arriver à régler ça, etc. Il fait, alors vous retirez, puis vous réglez, il faut régler cette affaire. Bon, c'est comme ça qu'on a réglé l'affaire, on s'est retrouvé, puis quand on a pris des engagements, je crois qu'il n'y a rien eu de signer ce soir-là, il fallait eu juste un petit conseil pour tout le monde. Et puis on a pique-niqué, quoi. Mais enfin, j'avais fait du bruit dans ces détails. Ce qui fait que ça, c'est un titre confidentiel, ça marche pas, ça.
Ça marche, on a.
T'es entre parti 46, 40, et quand est-ce que. Parce que.
Oui, avant que Rosset. Je crois que Rosset n'était pas. J'étais encore là. C'est encore là. Enfin, tu vois, on avait de bonnes relations. D'ailleurs, tu sais que c'est moi qui ai fait un discours à l'extérieur. Je suis rentré au parti à la demande particulièrement de Maillard pour montrer que qu'il y avait un appui ouvrier. Moi, j'ai dans le parti, j'ai jamais rien retiré de quoi que ce soit du parti, mais j'ai beaucoup donné, tu sais. J'ai débrouillé, etc. Bref, on leur a donné des moyens, des locaux, de l'argent, de travailler au journal. Enfin bref, j'ai même une bonne lettre de mail hein, quand on a terminé le dernier numéro, nous remerciant, etc. Non, on a fait beaucoup de choses, mais moi j'en demandais jamais. Puis c'était tellement versatile le parti, tu sais. Sa chance, d'accéder aux finances, etc. Enfin, bref.
La FOBB, après beaucoup de tergiversations, a constitué sur le papier la fédération fusionnée, unifiée. Donc les syndicats, la Muraria, etc., aboutissent à juillet 1922, aboutissent à la fusion des syndicats du bois et du bâtiment de la Suisse.
Ouais.
Mais ça n'était que sur le papier. Et à Genève, on était absolument opposés au centralisme, surtout du centralisme de Zurich, puisque la Muraria avait failli ou avait accepté, comme tu dis, avait accepté l'échec dans le Locut de 1920. Et alors, il a fallu reconstituer à Genève un syndicat, c'est-à-dire essayer de regrouper, tant bien que mal, les gens pour leur redonner confiance en l'idée du syndicat. Mais il n'était pas question de faire de l'action. Ce n'était qu'une longue, un long travail de reprise de confiance et de petites informations parce que les moyens étaient trop petits, parce que le syndicat était trop petit.
Le syndicat, ce n'était pas la FOBB.
Non, ce n'était pas la FOBB. La FOBB était inexistante à Genève pratiquement jusqu'à 1927-28, lorsque j'ai eu des contacts avec Pignin, c'est-à-dire après l'affaire de 1926 au Palais des Expositions. Et alors, vers à la fin 26-27, j'ai rallié la FOBB. Mais là encore, nous étions très faibles. Mais ça nous a permis d'avoir un appui pour déclencher la grève de 1928, dans lequel les copains du syndicat autonome ont œuvré, mais même pas sous leur titre, parce qu'ils étaient couverts par ce grand mouvement de la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment. Nous avons fait la grève, et la grève a été animée par les copains du syndicat autonome, mais qui étaient des animateurs dans la grande masse des grévistes, mais qui n'étaient pas particulièrement FOBB, comme la plupart des grévistes n'étaient pas de la FOBB, puisqu'on était il y a que 125, 150, sur les plus de 2000. Et puis c'est à partir de 1928 que l'on a dû constituer la LAM. Mais le syndicat autonome n'y était pour rien.
Pourquoi on a dû constituer la LAM? Qui a décidé? La FOBB a décidé?
Oui.
Toi, t'as décidé?
C'était moi. Bon, disons que c'était moi, et puis les copains qui m'entouraient, que j'ai encouragé. Mais enfin, l'initiative, elle venait de moi parce que j'avais besoin de constituer un syndicat de combat, des groupes de combat pour imposer l'application de la convention collective qui avait été signée par la FOBB.
Et ça, c'est pas les syndicats le syndicat autonome qui l'a fait. La
non.
LAM et le syndicat autonome, c'était pas la même chose.
Non, ça n'était plus le syndicat. Ce n'était pas le syndicat autonome.
Pourquoi?
Parce
pas.
Qu'il était trop, faible, il était sans influence par rapport à la FOBB, mais il travaillait. Les militants travaillaient avec nous.
Et dans la LAM, il y avait des militants du syndicat autonome.
Non, il y avait d'anciens camarades du syndicat autonome et qui étaient des anards. Mais en fait, le syndicat autonome, il ne s'est jamais dissous, mais les hommes du syndicat sont entrés dans l'action de la FOBB, voire même se sont syndiqués à la FOBB. Mais ça n'a pas été une rupture organique. Il s'est fait une sorte de transvasement tranquille. Mm-hmm. Entrez.
Monsieur.
Bonjour.
Monsieur. J'ai changé les tubes là.
Ah oui.
Et le bon verre.
Ça marche?
Ah bien sûr. Bien sûr, il faut que j'aille voir si vous avez aussi votre feuille.
Mais là, il y a un ou deux petits problèmes. Tu dis, il est vrai que les syndicats en lutte, donc on est à la grève des maçons en 28, il est vrai que les syndicats en lutte ne regroupaient pas plus de 125 membres, alors que plus de 2000 ouvriers étaient impliqués dans le mouvement. La propagande tenace que le petit syndicat autonome des maçons avait fait pendant plusieurs années en faveur de la grève portait enfin ses fruits. C'est là que vient la contradiction. Pendant les mois d'hiver qui précédèrent le déclenchement du mouvement, la poignée de militants du syndicat fit des efforts d'information considérables. Selon une tradition bien établie dans les métiers saisonniers du bâtiment, les militants, etc., etc. Alors, ici, on a l'impression que c'est qui de nous ? C'est l'AFOBB ? C'est le syndicat ? Alors, je sais que tu m'as déjà blousé une fois, alors tu vas pouvoir me refaire le même numéro, mais il y a un petit problème de logique, là, tu vois, pour le lecteur.
Oui.
Donc, le truc, c'est que en 22, la FOBB est créée, mais elle est créée sur le papier. On a dit plus haut la création du petit syndicat autonome. Hein, alors, quand la grève survient, il est logique, à ce stade, vu qu'on n'a rien dit, on n'a pas dit que le petit syndicat, que t'étais plus dans le petit syndicat ou comme ça, il est logique d'attribuer le travail de propagande au petit syndicat.
Oui, hein? C'est vrai.
Alors, dans toutes ces années, mais maintenant, la grève de 28, là, t'es déjà à la FOBB.
Oui.
Hein?
Oui.
Et on n'a pas parlé de ton entrée à la FOBB.
Oui.
Nulle part.
Mm-hmm.
Et alors, tout à coup, là, c'est pas seulement la propagande sur plusieurs années qui porte ses fruits, c'est l'insistance dans les mois d'hiver qui précèdent le déclenchement de la grève.
Oui.
Et là, on ne sait plus de qui il s'agit quand on parle de ces militants.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est encore les militants du syndicat autonome?
Bah, c'est les uns et les autres, à ce moment-là.
Ouais, voilà. Alors là, on n'est pas bien, tu vois, pas clair pour les gens. On va avoir de la peine. Surtout que je te dis, c'est maintenant que je me rends compte, on ne dit jamais qu'on t'entre à la FOBB. Dans le sens, tu as réussi ton coup splendidement.
Je me demande si on devrait pas.
C'est là que ça fait un...
Si on ne devrait pas, dans l'affaire de ma rencontre avec Pignat, où je dis cette rencontre, je dis un bienfait n'est jamais perdu, etc. Et cela devait m'engager à adhérer à adhérer à la FOBB un peu plus tard.
Ah ouais, là ça va bien jouer parce qu'effectivement on est en 26.
Oui.
Grand chantier de construction du Palais des Expos en activité. Une fin d'après-midi, le syndicat des maçons et des nombreux chômeurs fait sa manif. C'est à cette occasion que je rencontre pour la première fois Clovis Pignat. Il était venu là en tant que secrétaire romand de la toute nouvellement créée Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment, membre de l'Union syndicale suisse, et pour laquelle celle-ci avait décidé de payer un secrétaire roman auquel incomberait la tâche, dans une région qui, s'inspirant du fédéralisme et de l'autonomie, abhorrait le centralisme, de promouvoir la concentration de forces syndicales jusque-là faibles et éparpillées. On va dire la fusion, hein, pour reprendre la distinction de l'autre jour. La phrase est un peu longue, il faudra que je la coupe. Mais, sauf que... Ça va pas en tant que secrétaire roman.
Oh, ça fait rien, pourquoi?
Non, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'en 22, elle est créée.
Ouais.
Alors on est en 26, on peut pas dire toute nouvellement.
Non, alors tu supprimes tout nouvellement.
Il était de la FOBB, roman de la. Mon membre de l'Union syndicale suisse et pour laquelle celle-ci, avec l'Union syndicale suisse, donc, avait laissé payer un secrétaire roman, je le remets.
Oui, mais...
On va la tâche dans une région qui s'inspire du fait.
Oui, mais avec l'aide, je pense. C'est pas l'Union syndicale suisse qui l'a créée.
Et pour laquelle
l'Union syndicale suisse...
Alors, on va faire plus.
Avait aidé.
Et pour laquelle celle-ci...
Avec l'aide...
Non.
L'Union syndicale suisse.
Avec laquelle, voilà, c'est ça que je cherche. Avec l'aide de laquelle.
De laquelle, voilà. Voilà. Ça, c'est juste.
Avait été créé avait été nommé, avait été créé un poste de secrétaire.
Voilà.
On ne disait pas comme ça, je crois.
Oui, non.
Avec laquelle. Avait. Été créé et
un poste rémunéré de secrétariat
secrétaire roman avait été créé avec l'aide de laquelle était payé un secrétaire roman auquel
voilà. Était rémunéré
voilà. L'aide de laquelle était rémunéré un secrétaire roman auquel incombait la tâche dans une région qui s'inspire du fédéralisme et de l'autonomie aborée de centralisme de promouvoir la fusion de forces syndicales jusqu'au l'interdit éparpillé. Attends, je veux retrouver le passage où on dit les effectifs syndicaux, les effectifs globaux où on donne la statistique. Ouais. Voilà, les ouvriers de la construction se regroupent, les efforts de travailleurs, ça c'est le syndicat autonome, toi tu en es le porte-parole parce que ta situation militaire est claire. Il y a des divisions, il y a le grand chantier, il y a ça. Comment va ma numérotation? Jusque la faible est éparpillée, et puis ça fait pas la fin. Hein. Ça fait suite, page 35. Au début de 1923, la statistique. Contradiction, tu vois. Ah ben non, ça va. Ouais. En 1926, tu rencontres Clovis Pignat, il vient d'être nommé en 26, c'est juste ça, secrétaire pour la Suisse romande, pour rassembler des forces jusque-là faibles et éparpillées. En effet, au début 1923, si on regarde la statistique, on voit bien que la Suisse romande était fort représentée. Et j'ai ajouté